Bonsoir et bienvenue sur La Courte Échelle, émission anticarcérale de tous les dimanches soirs sur Radio Galère 88.4. Donc, pour nous appeler, vous pouvez nous appeler en direct, donc pendant qu'on fait les émissions, au 04 91 08 28 10, ou bien nous écrire des lettres à Radio Galère, Friche de la Belle de Mai, 12 rue François Simon, 13003 Marseille, ou bien par mail à l'adresse la-courte-échelle@riseup.net. Ce soir, on est quelques-uns et quelques-unes dans le studio. Donc il y a Camille.
Salut.
Etna qui est à sa gauche. Phil.
Salut.
K.
Salut tout le monde.
Et Nino.
Salut.
Qu'on a déjà accueilli quelques fois les émissions précédentes. Et moi, Liane. Et ce soir, on voulait un peu discuter avec K de son parcours et de son expérience en prison.
Bah ouais, parce que quand on avait discuté, tu as fait pas mal de tôle, pas mal de peine. Et ça est allé sur très longtemps. T'es rentré. Tu peux un peu nous dire quand t'es rentré? Ouais. C'est quand la dernière fois que t'es sorti?
En fait, je suis rentré, j'avais 17 ans, c'était dans les années 90, dans 90.
Excuse-moi, Kay, il faut que tu sois un peu plus proche du micro.
Ouais.
Merci.
Donc, comme je viens de dire, je suis rentré dans les années 90, en 92, j'avais 17 ans, donc. Je suis ressorti là, il y a 4-6 ans, en 2016. Enfin, ressorti de complètement.
Voilà. Ouais, parce que ça, t'as fait plein d'allers-retours, quoi.
Pas tant que ça, en fait. Je prenais des peines, mais au lieu de faire tout droit et sortir comme il fallait, ben non, elle se prolongeait, devenait un peu plus longue. Fatalement. Parce que quand tu n'acceptes pas les règles, quand tu refuses, tu n'as pas de grâce, tu n'as pas d'aide, donc ça se passe un peu plus difficilement.
Ouais. Bah ouais, j'imagine.
Après, les conditions, elles étaient différentes aussi à l'époque. Hein. C'était plus dur, on n'avait rien, on avait juste ça, quoi. De pouvoir se rebeller et refuser et revendiquer justement le droit d'avoir des choses un peu humaines.
Parce que les conditions, c'était comment à l'époque? Il y avait quoi?
Tout simplement, quand tu rentrais, déjà, il fallait que tu t'abandonnes tous tes vêtements. Déjà, il y avait pas, tu prenais pas tes vêtements avec toi. Tu laissais tout à l'entrée. Ensuite, tu avais la promiscuité. Et les conditions étaient plus difficiles. Il n'y avait pas ni radio ni télévision. Il y avait peu d'accès à la culture, très peu même. Voilà.
Est-ce que tu veux nous raconter un peu les prisons par lesquelles t'es passé, enfin les lister?
En gros, pour les citer, on va parler de Perpignan, de Montpellier. Et c'était en fait ces prisons. Moi, je suis rentré quand j'étais mineur, en fait jeune majeur. Ça a été au moment où ils ont créé les plans 13000, c'est-à-dire où ils ont fermé les maisons d'arrêt des villes, où ils ont créé des usines, quoi, des très grandes prisons. Et donc, on s'est retrouvé là-bas avec des anciens qui avaient fait des très grandes peines d'une autre époque, quoi. Et nous, on est arrivé là-dedans, on a subi et on a essayé de se défendre comme on a pu. Voilà. Et revendiquer justement, par exemple, d'avoir une seconde couverture parce qu'il faisait trop froid dans les cellules, on n'avait pas de chauffage. Les repas aussi, pour demander un peu mieux, que ce soit un peu meilleur.
Et c'était quoi les moyens de se rebeller, comme tu dis?
Les moyens de se rebeller, t'en avais pas beaucoup. Hein. T'avais la grève de la faim, personnelle pour toi, personnellement. Sinon, si c'était pour que ce soit plusieurs personnes, on refusait de remonter de promenade. Voilà, on faisait des blocages. Ça s'appelait des blocages. On refusait de remonter. Après, si le refus de remonter il durait trop longtemps, ça faisait justement intervenir les hautes instances, les préfets, les gens un peu plus importants. Et du coup, on commençait à entendre plus notre parole. Mmh. Bon, après, ça a mis du temps avant que ça bouge un petit peu. Et voilà, ça a évolué comme ça.
Et pendant que toi tu y étais, vous avez réussi à obtenir Des petites avancées, hein. On sait que c'est pas la lune, mais au moins des petits trucs.
Après, on a réussi à avoir des petits changements, mais je pense que c'est plus aussi parce que les mouvements, ils étaient nationaux, en fait. C'était dans les prisons, c'était en 92 ou dans les alentours de 92-93, mais c'était plusieurs maisons d'arrêt en même temps, où les gens, ils ont exprimé leur ras-le-bol. Les familles, ils ont exprimé leur ras-le-bol d'être traités, d'être parqués comme des animaux quand ils viennent voir leur famille au parloir. Et pareil, de l'autre côté, les détenus, ils étaient très mal nourris, mauvaises conditions de vie, quoi, tout simplement. Mmh. Et nous, tout ce qu'on avait, c'était ça, donc les blocages, les grèves. Et on a réussi à avoir donc la non-obligation d'aller en promenade le matin, parce qu'avant, c'était obligatoire. Donc après, les refus de remontée nationale. On a réussi à avoir ça. Après, pour nous, pour la prison où on était, on a fait des blocages pour avoir une deuxième couverture. On a fait des blocages pour avoir des meilleurs repas. Et ouais, à terme, on les a eus. Ouais, on les a eus. Quand... Avec beaucoup de difficultés, mais on les a eus.
Quand tu dis blocage, tu veux dire refus de remonter de la cour de promenade.
Entre autres, refus de remonter de la cour de promenade, refus de prendre les repas, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui les embête beaucoup. Parce que ça remonte aussi autant qu'un blocage en promenade. Mmh. Voilà.
Ouais. C'est comme une, et quand tu fais longtemps, c'est différent d'une grève de la faim. Quand tu dis grève, tu penses à grève de la faim ou à...
Non, grève de la faim, ça va être plus personnel. Ça veut dire si la personne ne va pas être entendue par son juge d'instruction ou si ça fait X fois qu'elle demande des demandes de mise en liberté provisoire, qu'on ne lui répond même pas. Voilà, après, les rares moyens que tu as, quand tu n'as pas les moyens d'avoir des grands ténors, des grands avocats et de la famille à l'extérieur qui se bat pour toi, ben les moyens que tu as, c'est ça. C'est tu fais la grève de la faim jusqu'à ce que ça te touche physiquement et que ça alerte les hauts placés. Donc, à partir de ce moment-là, on va plus un peu regarder. Et ce n'est pas forcé que ça va aboutir non plus. Hein.
Et quand tu disais que c'était des mouvements qui étaient nationaux dans les maisons d'arrêt, genre, il y avait des trucs de coordination, vous voyez à la télé, enfin, ça marchait comment?
Ben non, pas vraiment. Hein. Limite, c'est peut-être une coïncidence, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de téléphone portable. Les téléphones fixes, il n'y en avait pas que tu pouvais déplacer en dehors du filaire. La télévision, tu voyais ce qui s'était passé mais la veille. C'était du différé, c'était jamais rarement du direct. Non, je crois que c'était un ras-le-bol commun de tous les détenus de France en même temps. Enfin, de beaucoup de détenus de France, dans beaucoup de prisons, dans beaucoup de maisons d'arrêt, dans des centrales aussi. Parce qu'ils en avaient marre d'être baladés, de se faire déplacer, que les familles n'étaient pas prévenues. Voilà, c'était national en fait. Et non, on s'était pas parlé entre nous. Mais c'est vrai qu'après, avec les journaux et justement la télévision, c'est vrai que ça nous a donné du baume au cœur, on va dire. Mais si, ça nous donnait plus envie de tenir le coup parce qu'on se disait, voilà, on n'est pas les seuls à se battre et ça va donner quelque chose, quoi. On ne lâche pas.
Et là, tu disais dans les centrales, tu penses qu'il y a une différence de niveau de mobilisation dans les différents, en maison d'arrêt, en CD ou en centrale, ça, les gens, ils se battent plus ou moins ou c'est...
Non, les gens ils vont plus se battre une fois qu'ils vont être en centrale ou en CD parce qu'ils vont avoir plus le temps.
Et oui, parce qu'ils ont...
Et même en maison d'arrêt, il faut peut-être un peu moins peut-être parce que normalement, tu ne vas pas rester très longtemps en maison d'arrêt. Maximum, c'est 5 ans. Donc, c'est quoi c'est pas la même politique que si tu vas être calé, tu vas être en centrale ou en CD. Et là, tu vas pouvoir te mettre à préparer et à faire ce que tu veux, quoi.
Et que tu sais que de toute façon, tu es là pour au moins 10 ans et que autant c'est essayer ça. D'améliorer un peu le...
C'est ça. Et ta parole, elle va être un peu plus écoutée aussi. Parce que ce n'est pas de la parole qui est juste momentanée. Parce que quelqu'un en maison d'arrêt, il peut, du jour au lendemain, on peut venir lui dire « Pactage, t'es libérable. » Ou « Pactage, t'es transféré. » Donc, voilà.
Et ouais, du coup, tu disais tout à l'heure, tu as vu pas mal de changements se faire au fur et à mesure, enfin, avec le temps. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais de l'uniforme qui s'est arrêté, mais pareil, l'arrivée des téléphones illégaux en prison.
La télévision, tout simplement, la radio, hein, une radio, avoir une radio en prison, c'est arrivé quand moi j'y étais, en fait. Hein. C'est arrivé aux alentours de 94. Les premières télévisions, 93, 94, les premières télévisions dans les cellules. Bon, pour ceux qui avaient de l'argent, c'était pas automatique. Après, c'est devenu un peu plus quand il y a, à force des années, à force des mouvements. Mais ouais, au début, c'était le début de tout. En même temps, c'était la carotte. C'est comme je disais tout à l'heure, on nous donnait quelque chose, mais en contrepartie, les peines, elles étaient plus longues. Les condamnations, elles étaient plus dures. Donc, l'un dans l'autre, en vrai, je ne sais pas si on a tant gagné que ça, quoi.
Et puis, en fait, les conditions de détention, elles s'adaptent à la société. Genre, maintenant, il y a beaucoup plus de télé et tout, mais juste les carottes, comme tu dis, elles changent, quoi, en fonction du temps.
Bah ouais, complètement.
À chaque fois, ils se démerdent pour faire miroiter un truc, pour que les gens, ils se tiennent à carreau et que... Il y a toujours autant de différences entre les prisonniers qui n'ont pas de thunes et ceux qui en ont, mais juste, c'est pas sur les mêmes choses.
Ben ouais, en fait, à la limite, pour être un peu plus cru, on va dire, pour eux, c'est comme s'ils avaient un parc de bétail. Il faut qu'ils aient un rendement, une production qui est constante, s'ils veulent qu'eux, ils soient légitimes à leur place. Et donc, même quand ils ont donné quelque chose d'un côté, c'est pour enlever quelque chose de l'autre côté ou d'être plus dur sur des autres sujets. Ouais, carrément.
Et t'as rencontré d'autres radios qui parlaient un peu de prison dans les différentes prisons dans lesquelles t'es passé?
Non, pas vraiment. Moi, je suis allé beaucoup dans les groupes scolaires pour aller un peu à l'école, pour faire un peu de culture, de modelage, de choses comme ça, des activités. Les radios, il y en avait qui avaient des émissions où on pouvait laisser des dédicaces. Mais voilà, c'était encore très peu aussi, c'était les prémices.
Mais ouais, c'est quand même une pratique qui existe dans pas mal de lieux d'enfermement, quoi.
Oui, oui, oui. Et c'était surtout, pour l'époque, c'était aussi un moyen de communiquer, en fait. Parce que tu avais beaucoup de familles qui ne pouvaient pas se déplacer parce qu'il n'y avait pas les moyens de locomotion. Et puis même, il n'y avait pas les moyens souvent de connaître l'endroit où c'est s'y rendre. Alors, avoir le relais d'une émission et pouvoir dire « je vais bien, je suis là-bas et je passe le bonjour à ma femme ou à mes enfants », c'était quelque chose que beaucoup de gens attendaient le jour de l'émission. Ouais, ouais, carrément. Ouais.
Oui, nous, à Marseille, par exemple, il y a Parloir Libre qui a une émission qui fait ça, des dédicaces et qui existe depuis de longues années.
Ben, bravo à eux, alors. Très bien.
Pour revenir un peu à l'évolution de l'atoll, à toi qui a pu observer l'évolution de l'atoll, tu me parlais de ce que tu as vu arriver, notamment les soins médicaux. Qu'avant, quand tu es rentré la première fois, il pouvait y avoir un médecin qui venait à l'atoll pour des urgences, mais il n'y avait pas un centre médical dans l'atoll.
Non, il n'y en avait pas. Il y avait une infirmerie qui était ouverte aux heures de bureau, comme on ouvre un magasin en journée. Et il y avait un surveillant qui était attitré là-bas. Et il y avait une infirmière qui était détachée du CHR de la ville et qui venait rester là pendant les quelques heures du matin et rebelote de 14h à 18h. Et après, il n'y avait plus personne. Il n'y avait que s'il y avait un cas grave. Un accident grave, une fracture, un mort, voilà quoi. Et sinon, tout le temps, il n'y avait pas de soins, il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de centres médicaux, il n'y avait rien du tout. Pour par exemple, comme je te disais l'autre jour, pour ceux qui avaient des problèmes de toxicomanie, un exemple. C'était pas mieux, mais c'était différent pour eux parce qu'en fait, quand ils rentraient, comme ils n'avaient pas de soins, ils n'avaient pas de médicaments, ils n'avaient rien d'autre, ben, au bout de 2 semaines, ils étaient obligés d'être sevrés. Et voilà, ça leur permettait de réouvrir les yeux. Après, quand plus ça a évolué, plus il y a eu des soins qui sont commencés à arriver et ça a enlevé justement tous les trafics qu'il y avait dans les prisons et ça permettait de pas continuer dans des prises de choses qu'il fallait pas, quoi. Mais pour se soigner.
Ouais.
Ouais, pour se soigner.
Mais tu disais que du coup, c'était vachement à la dure pour les personnes toxicomanes. Mais que maintenant, du coup, il y a beaucoup plus ce contrôle par les médicaments, qui est du coup un truc beaucoup plus. On va filer des médocs très très facilement.
Ouais, en fait, moi, de ce que j'en ai vu, j'ai l'impression que c'était aussi suite à beaucoup des mouvements et tout ce qui s'est passé, des émeutes. Ils ont commencé à donner des médicaments à des détenus qui n'avaient pas vraiment de réelle pathologie. C'était pour les rendre amorphes et qu'ils ne bougent pas et qu'ils ne se rebellent pas. Ouais. C'était plus distribution de bonbons que des vrais soins. Ouais.
Ouais, c'est une clair. Apparence humaine, mais en vrai, c'est juste pour endormir.
Ouais, c'est carrément ça, en fait. C'était pour endormir les gens, tout simplement. Parce que la distribution, c'était quoi ? C'était des limites, c'était des psychotropes, hein. C'était des cachets qu'à l'extérieur, un médecin ne te donne pas. Voilà. Après, ça rendait accro les gens. Et automatiquement, ça les rendait malades et donc plus facile à gérer.
Même en termes de... Est-ce que toi, t'as déjà constaté qu'ils laissent rentrer, par exemple, du shit ou quoi pour maintenir un peu la paix sociale dans les prisons ? Ou pas?
Le voir perso, je sais pas, non, je l'ai pas vu perso, mais oui, forcément, ouais, on le sait, et même des chefs de détention, ils nous l'ont déjà dit, me l'ont déjà dit moi perso, que sachant même que eux, que les gens fument et en cellule, ils étaient contents quelque part, parce qu'ils savaient que les gens qui fumaient, automatiquement, ils étaient un peu plus zen, un peu plus à la cool, et ils iraient pas se rebeller, ils iraient pas. Voilà, quoi. Ouais, carrément, ouais. Après, à dire que moi, je les ai vus, moi, introduire des produits, non, personne. Non.
Après, il y a introduire et tolérer. Et bon.
Les deux,
hein. Ouais. Enfin, après, il y a aussi plein de... Bon, enfin, ils tolèrent pas forcément, il y a plein de personnes qui prennent des peines internes et tout. On en parlait un petit peu tout à l'heure de...
Ouais, ouais, ouais. Après, c'est pas tout le monde qui va tolérer, mais c'est comme tu viens de dire avant, c'est acheter la paix, hein. C'est savoir que si et ça c'est des témoignages de directeurs de prison de Lyon Corba ou d'ailleurs qui disent que voilà quoi, si aujourd'hui ils retiraient tous ces stupéfiants qu'il y a dans les prisons, ben ce serait des émeutes, voire des meurtres qui se commettraient tous les jours, parce que ce serait ingérable.
Ouais, c'est marrant, enfin, je trouve ça intéressant de ce que tu dis depuis tout à l'heure, qu'il y a toujours un peu un rapport de force dans les prisons entre arriver à maintenir les détenus, enfin, que les mouvements, enfin, les changements en prison sont souvent arrivés ensuite à des moments de mouvements de protestation un petit peu, et qu'il y a toujours un peu cet enjeu d'arriver à canaliser le truc, quoi, pour que ça tienne.
Ouais, ouais, complètement. En même temps, c'était donné pour de l'autre côté durcir aussi. Après on a eu des choses que c'est pas nous qui avons bloqué pour les avoir. Un exemple, le ministre de l'époque, il me semble que c'était Robert Badinter, il a obligé à avoir les télévisions en cellule pour les détenus. Il a fait beaucoup il a accordé beaucoup de choses pour les libérations, les facilités de libération, tout ça. Mais à l'inverse, de l'autre côté, avant, un exemple, pour un simple vol, t'étais condamné à 2 mois avant qu'ils votent ces lois. Et après avoir voté ces lois, ben, au lieu de prendre 2 mois, les gens, ils prenaient 6 mois. Voilà, et c'était pas forcément toujours, les mouvements, ils sont pas à l'initiative toujours que des détenus. Des fois, c'est à l'Assemblée que ça se décide, à l'Assemblée nationale, c'est des députés qui vont proposer des lois, qui vont demander des choses et qui vont les avoir, justement. Parce que pourquoi ? Parce que ça va passer crème, il y a personne qui va être au milieu pour dire attendez, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous demandez ?
Ouais, c'est fou, ça. Vraiment, il y a toujours ce côté où ils font passer des... ils font beaucoup de médiatisation des, de leurs lois qui sont le côté de leurs lois qui sont plus humaines pour les taulards et les taulardes et des espèces d'avantages, alors que derrière ils font passer des trucs hyper hardcore qui rendent tout ça toujours plus sécuritaire. Bah, comme ce que tu dis de là, les, là ils ont montré qu'ils donnaient des télés, qu'ils facilitaient les conditions de détention, et après derrière ils rallongent les peines.
Ouais.
C'est toujours ce truc de en loose day quoi, qui font le qui font leur sécurisation
en loose day, en même temps c'est voilà, c'est la politique sécuritaire hein. Il faut qu'ils rassurent le peuple hein. Il faut qu'ils rassurent la populace, il faut qu'ils rassurent les gens qui votent.
L'extrême droite, je pense que c'est le Club Med.
Ouais, bah il ferait bien d'y aller voir et ils verront que c'est pas vrai, c'est pas le Club Med. Mais ouais, quoi que tout ce qu'ils vont faire, ils vont faire en sorte que les gens qui vont les voter à l'extérieur ou qui vont les voter à l'intérieur pour les maintenir à leur poste, ils soient sûrs qu'ils arrivent à tenir tous ces gens et à être safe, quoi. Et à rassurer les gens en leur disant, vous inquiétez pas, nous, on va les garder, on va les tenir et on va faire comme il faut. Mais en fait, c'est juste... C'est juste une... Une économie, en fait. C'est devenu une économie, en fait. C'est devenu une économie, ouais. Quand on sait que depuis les années 90, hein, des gens peuvent se mettre entre eux et mettre de l'argent et construire une prison. Et après, l'État, elle va mettre à l'intérieur l'administration pénitentiaire et tout ce qui s'ensuit. Et des gens, ils vont faire de la thune avec le malheur d'autres. Voilà. Car en même temps, ils ont mis des télés, c'est très bien beau, mais il faut les payer, les télés. Voilà, ça aussi, c'est une chose.
Oui, c'est un marché.
Voilà. Après, il y a aussi le problème des cantines. On vous donne exprès juste ce qu'il faut pour survivre, à manger, mais pas plus, quoi. C'est pas, on ne va pas chercher le goût, on ne va pas chercher le sel, on ne va pas chercher le sucré. Voilà. Mais à l'inverse, à côté, on va vous mettre sous la porte des tonnes de papiers de publicité et vous allez voir dessus que vous pouvez acheter tout et n'importe quoi. Mais pour ça, il faut avoir de l'argent. Ce n'est pas le cas de tout le monde.
Et peut-être, moi, je voulais bien revenir sur un truc qui est pas mal intéressant aussi, c'est l'arrivée de... Les débuts des SPIP et de la dite réinsertion. Et tu peux parler de ça un peu ?
Ouais, ben oui, ben le SPIP, c'est quoi ? C'est service de probation et d'insertion de l'administration pénitentiaire. Mais en réalité, non, c'est juste comme ça. C'est des surveillants à qui on a demandé de laisser l'uniforme dans le vestiaire pour avoir un autre accès envers les détenus et que ce soit plus zen pour parler avec eux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, le SPIP, ce n'était pas fait pour aider les gens à avoir un aménagement de peine ou un bracelet électronique. C'était plus pour voir si tu n'avais pas des casseroles, si tu ne traînais pas des casseroles, si tu n'avais pas des dettes à l'État, si tu ne devais pas des peines ailleurs. Et voilà, c'était juste à ça que ça servait le SPIP, à la base.
Ouais, unité de contrôle, quoi.
Exactement. Mmh. Et pouvoir avoir une main sur toi, mais aussi après ta peine. Mmh. Voilà. Une façon d'avoir toujours l'œil sur la clientèle.
Ouais, je trouve ça fou à quel point ils déguisent ce contrôle-là comme un accompagnement... des taulards pour se réinsérer dans la vie active et tout, alors que c'est pas du tout le cas. On sait très bien que ça n'existe pas, la réinsertion. Et que...
Non, mais en même temps, ils peuvent pas venir et ouvertement te dire « Attends, gars, on vient, on va regarder toutes les casseroles que tu peux avoir à l'extérieur, si tu as des dettes, si tu dois de l'argent, si c'est recherché, si t'es pas recherché ailleurs. C'est clair que si tu le sais, tu vas pas l'accepter. Alors autant, eux, ils sont obligés de masquer ça.
Ouais.
Parce que ça va pas être accepté de la même manière.
Ouais, ils filoutent.
Bien sûr. Même si aujourd'hui ils se mettent en relation avec les familles et ils font des choses, mais ça reste toujours sous contrôle de. Faut pas oublier que c'est des gens qui ont leur uniforme dans le vestiaire et qu'ils ont fait l'ENAP, ils ont fait l'École nationale de l'administration pénitentiaire et que même s'ils sont spip, ils sont surveillants.
Peut-être que... Merci beaucoup. Peut-être qu'on va, on va devoir enchaîner.
Oui, il est déjà 55. On avait une petite brève qui date de lundi, enfin lundi et dimanche, puisque lundi, il y a eu un refus de rejoindre les cellules d'une centaine de personnes qui sont restées en cours de promenade à la prison de Seyss et qui faisait suite à, bon, selon les médias, une tentative de suicide. En tout cas, c'est ce qu'on trouve dans, dans quelques articles où les prisonniers voulaient protester contre ça. Et il y a un article de L'Envolée, enfin non, une émission de L'Envolée qui en parle un petit peu. Je vais vite fait lire ce qu'ils en disent. On revient sur la mort de Rachid Omitar de Seyss dimanche dernier. La presse se fait le relais de la vision des matons et de leur syndicat qui parlent d'un suicide, alors que Rachid, 19 ans, venait d'apprendre qu'il devait sortir sous bracelet électronique la semaine suivante. Des prisonniers disent qu'il a été tué par les surveillants et qu'ils avaient des traces de coups sur le, qu'il avait des traces de coups sur le corps. Une centaine d'entre eux ont bloqué la promenade lundi au cri de maton assassin et se sont fait réprimer par les Eris. Ce n'est malheureusement pas la première fois que des prisonniers témoignent de la violence des gardiens de la maison d'arrêt de Seyss. Plusieurs morts suspectes ont déjà eu lieu. Et en particulier la sinistre équipe du Mitar. Et plusieurs blocages de promenades en protestation aussi. On dirait que rien n'a changé depuis la mort de Jawad en 2018. Voilà, c'est... Du coup, ben... Désolé d'avoir un peu abordé le sujet brusquement sans l'annoncer. Force aux personnes qui essayent de lutter. En tout cas, c'est merci à L'Envolée de faire sortir cette parole.
Et encore merci Ka, du coup, pour ton témoignage aujourd'hui. On va finir l'émission ce soir avec une musique que tu as proposée, du coup, Antisocial de Trust. Je sais pas si avant tu veux ajouter un dernier mot, vu qu'on a brusqué un peu.
Ben, je veux vous remercier à tous et à tous ceux qui nous écoutent. Et si je peux dire quelque chose de plus, c'est cultivez-vous, apprenez et vous allez voir, ça va changer.
Ouais. J'espère.
Merci beaucoup d'être venu, c'est super. Et tu pourras carrément revenir pour discuter plus longuement.
Oui,
bien
sûr.
Parce que là, il y a une émission après et on n'avait pas vu le temps.
Au plaisir.
Allez, ciao, ciao.
Merci
ciao,
tout ciao. Le monde et merci à la semaine ciao. Prochaine.
Ciao.
Salut.
Antisocial, tu perds ton sang-froid.